Bien, bonsoir à toutes et à tous. L'IAP a le plaisir de vous accueillir malgré toutes les contraintes qui nous sont imposées. Donc voilà, les masques, y compris pour les orateurs maintenant. Mais voilà, on est content de rester ouvert et de pouvoir encore quand même accueillir quelques personnes. La jauge va être limitée à 40, donc ça va faire encore moins de monde que d'habitude, mais c'est comme ça. Donc nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne année malgré tout, en espérant qu'un jour on reprendra une vie normale. Voilà. Et en attendant, on essaye de faire de notre mieux. Donc je voulais d'abord vous annoncer les conférences à venir. Alors il va y avoir un deuxième cycle de conférences qui aura lieu le troisième mardi du mois, qui est organisé par l'Union rationaliste. Donc ce sera des sujets un peu différents qui n'auront pas forcément de relation avec l'astrophysique. Et la première conférence de cette série sera donnée par Marie-Christine Morel, qui est professeure à Sorbonne Université, sur les origines de la vie et la xénobiologie. Ne me demandez pas ce que c'est, parce que je ne sais pas, mais le 18, je saurai. Et puis, le 1er février, la conférence suivante de notre série habituelle, ce sera Brice Ménard, qui est professeur maintenant à Johns Hopkins University à Baltimore, qui nous parlera d'astrophysique et intelligence artificielle. Donc, pour l'instant, les inscriptions se font d'une conférence à l'autre, ce qui veut dire que comme la prochaine conférence de l'autre cycle est le 18 janvier, vous ne pourrez vous inscrire pour la conférence du 1er février que le 19 janvier. Ensuite, on espère réussir à organiser des inscriptions différentes pour que ça soit plus simple. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, vous ne pourrez pas vous inscrire demain matin au saut du lit à 5 heures du matin pour la conférence du 1er février, parce que c'est comme ça, sinon on n'a pas de place. Il faudra attendre le 19 janvier. Bien, alors pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Guylaine Lagache, que je connais depuis fort longtemps, qui travaille maintenant au LAM, Laboratoire d'astrophysique de Marseille, depuis 2014. Avant cela, elle a travaillé à l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Et donc, elle a fait sa thèse sur les poussières du milieu interstellaire dans la Voie lactée et les poussières toujours dans les galaxies lointaines en 1998 à l'IAS. Ensuite, elle a travaillé sur plusieurs missions, ISO d'abord, ensuite Archéops, puis Herschel, le satellite Herschel, et surtout la mission Planck, dont vous avez entendu parler plusieurs fois ici, puisque on a eu beaucoup de personnes qui travaillaient sur Planck à l'IAP, et donc il y a eu plusieurs conférences depuis quelques années. Elle travaille aussi donc sur le fond diffus infrarouge, c'est-à-dire le rayonnement infrarouge qui est un traceur des étoiles obscurcies dans l'univers, obscurcies par la poussière. Et puis, elle travaille, bien sûr, toujours sur les galaxies lointaines, avec une participation active à un spectrographe millimétrique qui s'appelle, ou qui s'appelait, on va quand même en parler au présent, Concerto, qui était monté sur le télescope millimétrique APEX au Chili, à l'ESO. Et cet instrument commence à donner des résultats. Il y a eu quelques missions. Et enfin, Guylaine a obtenu le prix Nourrit de l'Académie des sciences en 2012 et la médaille d'argent du CNRS en 2021. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de la rayonisation et de la fin des âges sombres. On en a bien besoin aujourd'hui. Donc voilà, la fin des âges sombres, même si ça remonte un peu plus loin. Et puis ensuite, vous pourrez lui poser des questions.
Merci Guylaine. Merci, bonjour à tous et à tous. Oui, je n'ai pas pensé à cette histoire. Je suis trop positive dans la vie. Alors, je vais vous parler d'un sujet que je n'ai jamais parlé en vulgarisation. Donc, vous êtes mon public test. J'espère que ça va aller. Et donc, on va discuter aujourd'hui de l'époque de rayonisation, qui est une transition dans l'univers qui est extrêmement importante, et on va voir pourquoi. Alors, je commence avec quelque chose que vous avez déjà certainement vu, hein, qui est cette brève histoire de l'univers, cette chronologie plutôt de toute l'histoire de l'univers, qui est décrite ici très brièvement. Et puisque vous avez eu des conférences sur Planck, vous savez que donc, l'univers est décrit par la théorie du Big Bang. Donc le Big Bang, c'est cette époque dense et chaude qu'a connue l'univers. Et à cette époque, en fait, l'univers est juste une soupe de particules. Toutes les particules sont désorganisées. Et en fait, il est complètement opaque de ce fait-là. C'est-à-dire que les photons, donc ces messagers de la lumière, ne peuvent pas se propager, parce qu'il va être diffusé sur toutes les particules libres qui sont dans l'univers à ce moment-là. Donc, par exemple, les électrons, si on prend un photon, au lieu de se propager, il va rebondir dans tous les sens. Et puis, cet état dure jusqu'environ 380 000 ans après le Big Bang, où, en fait, l'univers est suffisamment froid pour pouvoir recombiner les électrons et les protons et former les premiers atomes. Donc, l'atome qu'on forme en premier, c'est l'hydrogène ici, qui a un proton, un électron. On forme aussi des atomes d'hélium. Et à ce moment-là, en fait, c'est la libération des photons, c'est-à-dire que l'univers devient transparent, puisque les photons de lumière peuvent se propager. Et c'est cette lumière que l'on voit ici comme le rayonnement fossile ou le fond diffus cosmologique, hein, qui a été observé par Planck et qui date de 380 000 ans après le Big Bang. Alors après, une période d'obscuration s'ensuit parce que, en fait, l'univers est principalement composé d'hydrogène à ce moment-là, et puis il n'y a aucun processus astrophysique qui ne crée de nouveaux rayonnements. Donc il y a toujours ce fond diffus cosmologique qui baigne l'univers d'un rayonnement très chaud, mais on n'a pas de processus astrophysique qui crée de nouveaux rayonnements. Et donc, on n'a aucun moyen de sonder vraiment l'univers à ces époques. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les âges sombres. Et ces âges sombres, ils finissent lorsque l'on a la naissance des premières étoiles et des premières galaxies, que l'on peut voir ici par ces petits points brillants. Et ces premières étoiles, en fait, vont produire des quantités importantes de rayonnement qui va être suffisamment énergétique pour rayoniser l'univers. D'accord ? C'est-à-dire de nouveau séparer, par exemple pour l'hydrogène, l'électron du proton. Cette rayonisation, elle est produite par les premières étoiles, les premières galaxies ou les premiers trous noirs, on va voir. Et elle se situe environ à 200 millions d'années après le Big Bang, et elle finit à peu près à 900 millions d'années après le Big Bang. Au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'étoiles qui est formée, en fait, donc chaque étoile ou chaque galaxie va rayoniser l'univers qui est proche de lui. Et puis, au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de ces objets qui sont formés, on a ces bulles, de gaz ionisé, il va y en avoir de plus en plus, elles vont croître, elles vont se chevaucher pour finir aujourd'hui avec un univers complètement ionisé. C'est-à-dire que dans l'univers local, donc ici, on est ici, le milieu entre les galaxies est complètement rayonisé. Donc cette rayonisation, c'est une étape importante de l'univers, vraiment un changement de phase, on pourrait dire. Et c'est une frontière observationnelle, parce qu'elle se situe entre 900 millions d'années et 200 millions d'années. Donc pour aller voir cette rayonisation, il faut des instruments très puissants pour aller voir très très loin aux premiers instants de l'univers. Alors plutôt que de parler en millions d'années, je vais aussi employer le décalage vers le rouge, Z. C'est plus facile que d'avoir des milliers, des millions, des milliards. Donc aujourd'hui, l'univers local, on est à Z égale 0. Hein, ce décalage vers le rouge, c'est comme l'effet Doppler. Je pense que vous connaissez. Et donc la rayonisation a lieu grosso modo entre un décalage vers le rouge de 6 à 30. Donc je vais alterner entre les deux et j'essaierai de rappeler les âges à chaque fois si je me souviens de la correspondance décalage vers le rouge âge. Alors qu'est-ce que cette ionisation ? Donc pour l'atome d'hydrogène qui est le constituant principal de l'univers, hein, aujourd'hui on a 75% en masse qui est fait par l'atome d'hydrogène. Donc l'ionisation, en fait, on va séparer l'électron du noyau qui est juste un proton. D'accord ? Pour faire ça, en fait, on va avoir un photon incident qui va avoir une énergie suffisante pour arracher l'électron du proton. Bon, cette énergie vaut 13,6 électronvolts, ça ne vous dit peut-être rien, mais en fait, ça veut dire que toutes les longueurs d'onde plus petites que 912 angstrom, donc 912 × 10⁻¹ mètres, vont être absorbées. Parce que toutes les longueurs d'onde plus petites que ça vont être capables de ioniser l'atome d'hydrogène. D'accord ? Et comme il y a de l'hydrogène neutre en abondance partout, tous ces photons qui ont cette énergie vont ioniser et donc ça va faire disparaître le rayonnement de ces photons. Et puis, donc une autre chose dont on va parler, c'est aussi une raie caractéristique de l'émission de l'atome d'hydrogène qui est la raie Lyman alpha. En fait, quand on a un atome d'hydrogène, donc le proton, l'électron, il peut avoir différents états d'énergie. D'accord ? Donc les états d'énergie de l'électron sont quantifiés. Donc le niveau fondamental, qui est le niveau le plus stable de l'atome, c'est, on dit, N égale 1. Et puis l'électron, il peut avoir différentes énergies sur ses orbitales. Et il va pouvoir, quand il va absorber un photon, passer de l'état fondamental à un état excité. Et puis à l'inverse, il va pouvoir se désexciter, donc passer d'un état plus haut à l'état fondamental en émettant un photon. Donc on a comme ça absorption, émission dans tous les sens. Et puis cette raie Lyman alpha est une raie importante parce qu'elle est très brillante et qu'on la voit énormément dans les premiers objets comme on va le voir. Et donc c'est la raie qui permet de passer du niveau N égale 2 ici à N égale 1, c'est cette première-là, qui a une longueur d'onde de 121,5 nanomètres ou 1215 angstroms. D'accord ? Donc ça c'est des longueurs d'onde dont on va parler après. Donc la longueur d'onde en dessous duquel tous les photons permettent de rayonniser l'hydrogène et la longueur d'onde Lyman alpha qui est l'émission ou l'absorption qui fait passer l'électron d'un niveau d'énergie N égale 2 à N égale 1. Alors, je vous ai grosso modo dit quand avait lieu la période de rayonisation, mais on va voir qu'est-ce qui nous a permis d'arriver à ces résultats. Donc ça n'a pas été facile, hein, ça a pris vraiment des années. Et une des percées majeures, c'était le résultat du satellite Planck. Donc je ne vais pas trop en parler de Planck en général, parce que vous avez eu plusieurs conférences là-dessus. Donc ça a été lancé en 2009, et l'objectif était d'observer le fond diffus cosmologique pour contraindre le modèle cosmologique de l'univers. Alors, quand on a, au début, là, je vous ai expliqué qu'au début, donc, les photons sont diffusés par ces électrons, notamment, et donc les photons ne peuvent pas se propager. Et bien, c'est pareil quand on a la rayonisation. En fait, la rayonisation va faire que le rayonnement fossile va être légèrement voilé, parce que la rayonisation va libérer les électrons qui vont être dans le milieu, et donc on va de nouveau avoir une diffusion sur ces électrons. Et donc, ça va faire que le fond diffus cosmologique va être légèrement voilé. Et schématiquement, plus les premières étoiles se sont formées tard dans l'histoire de l'univers, plus ce voile va être léger. D'accord ? Et on mesure ce voile par une quantité qu'on appelle l'épaisseur optique, dont l'équation est donnée ici. On voit surtout que ça dépend de la densité d'électrons. D'accord ? Plus il va y avoir d'électrons libres qui se promènent dans le milieu, plus l'épaisseur optique va être importante. Et Planck a mesuré une valeur de taux de 0,0544, donc ça ne vous dit rien du tout, mais c'est très très faible en fait. Et c'est notamment beaucoup plus faible que ce qui avait été mesuré précédemment par le satellite précédent, WMAP, qui était à 0,089. Donc vous voyez qu'avec Planck, on a une excellente mesure de taux et qu'elle a fortement diminué. Si elle a fortement diminué par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au voile qui est formé devant, ça veut dire que les étoiles se sont formées relativement tard, c'est-à-dire que plus tard que ce que disait le satellite WMAP. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui veulent observer la rayonisation, parce que plus les étoiles se forment tard dans l'histoire de l'univers, plus elles se forment proches de nous, on est dans l'autre sens, et donc plus on a de chances d'aller les voir. Hein, parce que WMAP mettait la rayonisation à un décalage valeur rouge de l'ordre de 30 ou 100 millions d'années après le Big Bang, et là, c'est tellement loin que c'est très difficile à voir. Alors que là, pouf, d'un seul coup, ça nous a rapproché la rayonisation de nous. Donc ça, c'est la belle aubaine pour les gens qui veulent travailler dessus. Donc Planck a mis le décalage valeur rouge moyen de la rayonisation à 7,7 ou 670 millions d'années après le Big Bang, et a pu montrer que l'univers ionisait à moins de 10% à un décalage valeur rouge plus grand que 10 ou 470 millions d'années après le Big Bang. Et donc ça nous dit vraiment qu'aujourd'hui, la rayonisation est à portée de main. D'accord ? Alors ça, c'est plutôt quand est-ce qu'elle démarre. Maintenant, on sait aussi quand elle finit. Et on sait ça grâce à l'observation des quasars. Donc les quasars, ce sont des objets quasi-stellaires, tellement ils sont compacts et sont formés d'un noyau actif en son centre, d'un trou noir qui est très 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 massif. Et donc ces quasars sont très brillants, donc ils émettent de l'émission et principalement cette fameuse raie Lyman alpha dont je vous ai parlé au début. Et cette raie Lyman alpha, donc entre le quasar et nous, elle va se propager pour arriver jusqu'à nous. Et puis, en se propageant, elle va rencontrer des nuages de gaz neutre et ionisé. Si cette raie Lyman alpha rencontre des nuages de gaz neutre, elle va être absorbée et donc elle va disparaître. Okay ? Et donc, ces quasars, en fait, donc ils émettent, là c'est la raie Lyman alpha, et puis pouf, s'il y a encore du gaz neutre, et il faut très très peu de gaz neutre pour que ça fonctionne, s'il y a encore du gaz neutre, on n'a plus d'émission. Ici, on voit qu'on a complètement un trou. D'accord ? C'est complètement plat. Et ça, s'il y a du gaz neutre, ça veut dire que la rayonisation n'est pas complète, hein, puisque la rayonisation complète implique qu'il n'y a que du gaz ionisé. Et donc, avec ces mesures, on peut comme ça arriver à mesurer la quantité de gaz neutre sur chaque ligne de visée de quasar. Et on peut comme ça voir que la rayonisation est finie à un décalage à l'heure rouge de 6, ou 950 millions d'années après le Big Bang. D'accord ? Donc, on voit que la rayonisation, elle démarre à 400 millions d'années après le Big Bang, grosso modo, et elle finit à 950 millions d'années après le Big Bang. Okay ? Donc ça, on sait à peu près quand aujourd'hui a lieu la rayonisation. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les objets responsables de cette rayonisation. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a fait beaucoup de progrès, mais comme vous allez le voir, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, observez l'époque de rayonisation. Donc, comme je vous le disais, même si elle s'est rapprochée de nous hein, avec les nouvelles mesures, ça reste quand même très très loin et très difficile à observer. Donc, on peut soit observer les sources qui sont responsables de la rayonisation. Donc, on pense les premières galaxies, les premières étoiles, les premiers trous noirs. Donc, ce sont des objets énergétiques qui émettent des photons qui vont ioniser l'hydrogène. D'accord ? Donc, ces photons sont créés par des étoiles massives, jeunes. Donc, on peut directement essayer d'aller voir ces sources, ou on peut aussi regarder la distribution à grande échelle des sources sans qu'on les voie de façon individuelle pour comprendre comment ça a pu ioniser les grandes structures. Et en particulier, on peut faire ça avec la raie de l'hydrogène atomique neutre, H1, parce que si on a les galaxies qui ionisent, en fait, autour de ces galaxies, on va encore avoir du gaz neutre. Donc, soit on observe les galaxies qui ionisent, soit on observe le gaz neutre pour comprendre la rayonisation. Et les deux, d'ailleurs, on les met ensemble pour encore aller plus loin. Alors, je vais d'abord parler des sources et puis on verra la distribution à grande échelle à la fin. Alors, voir les premières galaxies. Alors, les premières galaxies, en fait, elles ne ressemblent pas vraiment à celles qu'on connaît aujourd'hui. On n'a pas des super belles spirales. C'est plutôt des objets qui sont complètement désordonnés, faits de petits blobs qui forment leurs étoiles, qui sont en fusion. Et ce sont des galaxies qui sont très pures, c'est-à-dire qu'elles sont essentiellement composées d'hydrogène et d'hélium, qui est le gaz qui était présent à ce moment-là dans l'univers. D'accord ? C'est au fur et à mesure que les étoiles se forment qu'on arrive à former d'autres atomes comme le carbone, l'oxygène et tout. Mais au début, dans l'univers primordial, dans l'univers très jeune, on a de l'hélium et de l'hydrogène. Donc ces galaxies, elles sont donc composées essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Et dans ces galaxies, on pense qu'il y a ces fameuses étoiles de population dites 3, c'est-à-dire ces étoiles pures, composées d'hydrogène et d'hélium, très massives. Alors ces étoiles sont très massives et elles explosent très rapidement en supernova. Et en fait, elles brillent pendant moins de 1 million d'années chacune. Donc hein, la rayonisation, c'est entre 400 et 950 millions d'années. Et ces étoiles, qu'on pense être aussi contributeurs à la rayonisation, durent moins d'un million d'années. Donc elles n'existent plus depuis très longtemps. Hein. Et donc ces galaxies qui sont primordiales, en fait, elles sont beaucoup plus petites. Donc c'est encore plus difficile à détecter. Elles sont à peu près 1% de la taille de notre Voie lactée. Mais elles croissent très rapidement, parce qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de gaz qui s'accrètent le long des filaments de matière noire dans les galaxies. Donc, ça forme des étoiles très, très rapidement. Et puis, tout ça est en fusion avec la petite copine à côté. Et donc, ces fusions aussi créent des flambées de formation d'étoiles. Et donc, ça forme très, très rapidement des étoiles. Ça s'emballe, en fait. Alors, il faut chercher ces galaxies. Et la révolution hein, pour aller chercher ces galaxies lointaines, ça a été le Hubble Space Telescope, donc lancé en 90, notamment a observé ce qu'on appelle des champs profonds. Alors, vous savez que donc, les satellites sont dans notre galaxie, donc la première chose qu'ils voient quand ils observent le ciel, c'est notre galaxie. Et donc, pour aller voir ce qu'il y a en dehors de la galaxie et très lointain, en fait, on va observer dans une fenêtre où, dans notre galaxie, il n'y a pas trop de matériel devant. D'accord ? On va prendre une région très noire, où il n'y a pas trop d'émissions du milieu interstellaire de notre galaxie, puis on va observer comme ça. Et on va observer, puisqu'on a plein de détails, vous voyez, sur la forme des galaxies, donc c'est un champ qui est tout petit, et on va observer pendant très longtemps, parce que plus on va observer, plus on va faire descendre le bruit de notre observation, et plus on va pouvoir voir les galaxies lointaines. Donc ça, le champ de Hubble ultra profond, comme on dit, ça a duré pendant 11,3 jours en 2003. Et donc ça, c'est l'image du champ profond de Hubble. Et donc ce qu'on voit là, c'est que... Il y a beaucoup de galaxies, hein, il y a du monde. Donc il y a des galaxies proches, comme des galaxies elliptiques, des blobs comme ça, des galaxies spirales qui sont proches. Et puis dans cette foison de galaxies, il faut aller rechercher ce qui pourrait être les galaxies primordiales. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple d'une galaxie qui est relativement éloignée, mais on va voir comment on trouve ces galaxies. Et donc, dans ce champ-là, donc pour reprendre le même, donc en combinant les données de Hubble et d'un autre satellite, Spitzer, qui permet de voir plus l'infrarouge proche, alors qu'Hubble est côté ultraviolet visible, on peut comme ça trouver des galaxies très lointaines, donc en décalage valeur rouge de l'ordre de 8,6 à là 11,9. Et vous voyez hein, la tête de ces galaxies, elles sont quasiment au niveau du bruit. C'est très difficile à détecter. Et on n'arrive pas du tout à voir leur morphologie, quoi, à quoi elles ressemblent, d'accord ? On n'a pas les yeux assez détaillés avec Hubble pour voir ça. Alors comment, dans tout ce fratras-là de galaxies, on arrive à dire « Ah, mais celle-là, elle est dans l'univers primordial, celle-là, elle est proche de nous, etc. » On utilise quelque chose qui s'appelle la cassure de Lyman. Donc là, je rebondis sur ce que je vous ai dit au début, qui est que tous les photons qui ont une longueur d'onde inférieure à 912 angstroms vont être absorbés parce qu'ils vont ioniser l'atome d'hydrogène. Donc ça va faire, s'ils sont absorbés, ça veut dire que ça va éteindre en fait le spectre de la galaxie dans ces longueurs d'onde-là. Et dans l'univers primordial, dans l'univers au moment de la réionisation, parce que primordial c'est plus tôt encore, comme il y a beaucoup de gaz H1 neutre dans tous les sens, et ben en fait cette absorption, cette cassure est encore plus prononcée. Donc j'illustre ici, c'est pas moi qui fais le film, hein, mais quand on observe une galaxie, donc on observe dans ce qu'on appelle des filtres, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des longueurs d'onde, donc ici un filtre nom barbare F435W, donc on prend des filtres à différentes couleurs, de l'ultraviolet jusqu'au rouge, d'accord ? Et puis on va observer la galaxie comme celle-là, par exemple, dans ce filtre-là, dans ce filtre-là, dans ce filtre-là, avec Hubble. Et ça, c'est le spectre d'une galaxie. Et puis, plus elle va être lointaine, donc plus son spectre va être décalé vers le rouge, et bien en fait, plus en fait, la galaxie, il y a le break, la cassure de Lyman qui apparaît ici. Je vais l'arrêter, il va trop vite. Oh. On recommence. Ah ben non. Comment je fais ? Voilà. Par exemple, donc, ce spectre, donc, il va être décalé vers le rouge. Bon, normalement, il descend aussi en brillance. Et cette cassure de Lyman, en fait, là, ici, fait que la galaxie, comme je vous le disais, elle va disparaître. D'accord ? Donc, on ne va pas la voir dans les filtres bleus, parce que tous ces photons-là ont été absorbés parce qu'ils ont ionisé l'hydrogène. Et puis, on va voir cette galaxie encore ici. D'accord ? Et donc, ça fait, je m'éteins et puis je m'allume. Et avec cette technique, on arrive comme ça à voir, grosso modo, quel est le décalage vers le rouge des galaxies. D'accord ? Et donc, plus elles sont loin, je recommence, plus elles sont loin, plus on a besoin des filtres qui sont là sur le côté, qui sont rouges. Hein, donc là, Z égale 8, là, Z égale 9, Z égale 10, on est à, je sais pas, 150-200 millions d'années après le Big Bang, Z égale 12, on voit que là, elle n'apparaît plus que là, dans cette bande-là. Et c'est ce que va faire le GWST, notamment, je vais vous en parler après, c'est qu'il va observer plus côté rouge, avec plus de filtres ici, et donc ça va permettre d'étendre cette technique à plus grand décalage vers le rouge pour aller chercher les galaxies encore plus lointaines. OK, donc ça c'est sur des vraies données, cette fois. Donc là, on est autour d'un décalage vers le rouge de 7, donc ça doit être 750 millions d'années après le Big Bang. Donc on est plutôt vers la fin de la réionisation, enfin au milieu de la réionisation. Et ça, ce sont dans le Hubble Ultra Deep Field, donc en fonction des filtres qu'on utilise, donc les couleurs avec lesquelles on regarde les galaxies. On voit hein, que là, il n'y a rien, puis là, ça apparaît. Et voilà, donc ça apparaît dans ces longueurs d'onde-là, ce qui permet d'avoir approximativement un décalage vers le rouge. D'accord ? Alors, c'est une méthode qui fonctionne bien. Après, évidemment qu'il y a des contaminants. Hein. Il peut y avoir des étoiles, des fois. Il peut y avoir des galaxies naines, des petites galaxies qui sont proches de nous aussi. Donc, bon, c'est une technique qui marche très, très bien, qui est très bien comprise aujourd'hui. Mais pour avoir vraiment, après, la mesure du décalage vers le rouge, il faut prendre cette galaxie et aller l'observer avec un spectre. C'est-à-dire avoir pas seulement son image en photométrie dans différentes couleurs, il faut avoir toute la forme du spectre pour être sûr de ce qu'on mesure. Et la galaxie la plus lointaine qui a été trouvée aujourd'hui, donc c'est celle-là. Donc elle est à Z égale 11, ou 420 millions d'années après le Big Bang. Et en fait, pourquoi on a trouvé cette galaxie ? Parce tout simplement parce qu'elle est ultra brillante. Alors, ça pose des soucis parce qu'on est incapable dans les modèles de former ce genre de galaxie très brillante dans l'univers si jeune. Et puis, où il doit en exister une dans tout l'univers, et on est tombé dessus alors qu'on observait un champ tout petit, donc c'est vraiment bizarre. Toujours est-il que c'est la galaxie la plus lointaine qu'on connaît aujourd'hui, qui est aussi confirmée par son spectre. D'accord ? Elle a été trouvée grâce à la technique de la cassure de Lyman, mais elle a été confirmée par le spectre. Cette galaxie, donc, elle ressemble à ça dans les vraies images, et puis ça, c'est une vue d'artiste de à quoi elle pourrait ressembler. Elle est 25 fois plus petite que la Voie lactée, pour une masse 100 fois plus faible. Par contre, même si elle est 25 fois plus petite, elle forme des étoiles à un rythme 20 fois plus élevé que la Voie lactée. Donc, ça booste, hein, là-bas. Et elle produit des étoiles très chaudes, jeunes et très massives. Et il y a aussi l'évidence d'un trou noir au centre. D'accord ? Donc ça, c'est la galaxie la plus lointaine qu'on connaisse, Z égale 11. La deuxième plus lointaine qu'on a, elle est à Z égale 8.3. C'est loin, hein ? Il y a vraiment un gap entre 8.3 et 11. D'accord ? Alors, cette galaxie est très intéressante, mais ce n'est pas en ayant une galaxie qu'on va comprendre la rayonisation, d'accord ? Il faut beaucoup de statistiques. Alors, comme je le disais, pour avoir le vrai décalage vers le rouge, cette fois de façon sûre, parce qu'avec cette technique de la cassure de Lyman, on a une indication du décalage vers le rouge, mais après, il faut vraiment aller le mesurer, il faut faire un spectre. Et ce qu'on va vouloir utiliser, c'est une raie d'émission. Hein ? Quand on a une raie... n'importe quel élément, par exemple la raie Lyman alpha, on sait sa longueur d'onde d'émission, 1215 angstrom. Et puis si cette raie d'émission est émise par un objet qui a un grand décalage vers le rouge, alors la raie d'émission elle va être décalée par un facteur 1 plus z, z étant le décalage vers le rouge. D'accord ? Donc en mesurant des spectres de raies, que ce soit de l'absorption ou de l'émission, on va voir ce décalage vers le rouge des raies, et donc en mesurant ce décalage vers le rouge, on va vraiment précisément mesurer, en mesurant le spectre et en détectant les raies d'émission, on va précisément mesurer le décalage vers le rouge des galaxies. D'accord ? Donc on va avoir l'âge de l'univers au moment où on voit cette galaxie. Donc ça c'est très précis, mais c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de photométrie en bande large, parce que la photométrie, on va ramasser tous les photons dans une bande qui est très large, donc on va avoir beaucoup moins de bruit que lorsque l'on va disperser la lumière pour avoir un spectre. D'accord ? Donc la spectro, c'est très très difficile. C'est pour ça qu'on fait des relevés en photométrie, qu'on fait de la sélection d'objets, et qu'après on essaye de suivre ces objets sur les grands télescopes. Alors, une des raies, donc, c'est la fameuse raie Lyman alpha. Et en fait, les gens se servent de cette raie pour chercher des émetteurs Lyman alpha. Donc, cette raie est très, très, très brillante. Et l'idée, c'est que l'émission continue de la galaxie peut être très faible. Donc, on peut très bien pas du tout voir le continu. Par contre, on verra cette raie Lyman alpha qui est très brillante. Et donc, les gens ont eu l'idée de mettre, en plus des filtres larges qu'on voyait tout à l'heure, de mettre des filtres très étroits, au doux nom de NB973, par exemple, pour narrowband. Et ces filtres étroits, en fait, vont sélectionner une longueur d'onde particulière pour aller chercher l'émission Lyman alpha à un décalage vers le rouge donné. D'accord ? Donc, on place notre filtre étroit à une longueur d'onde donnée, ce qui nous donnera la raie de Lyman alpha à un décalage vers le rouge donné. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, dès les années 2006. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de surveys qui font ça. Et donc, sur les 45 000 galaxies qui avaient été détectées, il y en avait deux qui étaient détectés aussi en Lyman alpha et rien dans le continu. Et donc, qui pouvaient être des objets à très grand décalage vers le rouge. Et c'est ce qu'ils ont trouvé, donc sur seulement une des deux, ils ont pu faire un spectre, et voici le spectre, donc on ne voit pas du tout le continu, là, qui est dans le bruit, qui est tout petit, et on voit l'émission de l'arrêt Lyman alpha à, pareil, un décalage vers le rouge de 7. D'accord ? Donc ça, c'est une autre technique pour aller chercher les objets lointains, c'est d'aller chercher les émetteurs Lyman alpha. Et puis, une autre technique que l'on a, enfin un autre champ d'observation que l'on peut faire, c'est d'aller côté univers froid, donc cette fois d'aller à grande longueur d'onde. Donc tout à l'heure, avec Hubble et Spitzer, on était dans l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge. On peut aller voir ce qui se passe du côté du millimètre en longueur d'onde. Et ça, grâce à notamment ALMA, qui est un grand radiotélescope qui est installé sur le plateau de Chingentor au Chili à 5100 mètres d'altitude, et qui permet, de par sa sensibilité, hein, c'est vraiment un instrument révolutionnaire, vous avez eu une conférence là-dessus sur l'univers froid, j'ai vu, donc permet d'aller voir en fait aussi les galaxies lointaines, mais pas de la même façon que dans l'optique. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce domaine ? Donc ça, ce serait le spectre d'une galaxie qui ne contient pas du tout de poussière, avec la cassure de Lyman ici, et puis ce spectre-là qui provient à la somme des spectres de toutes les étoiles qui sont dans la galaxie. Si on ajoute de la poussière à cette galaxie, ça va absorber le rayonnement ultraviolet visible, parce que ces photons ultraviolets visibles vont chauffer les grains de poussière qui sont dans le milieu interstellaire des galaxies, donc ils vont élever leur température, et quand ils vont se refroidir, ils vont émettre dans l'infrarouge lointain. Et donc quand on ajoute de la poussière, on éteint la partie optique ici et on renvoie l'énergie qu'on a éteinte dans le domaine infrarouge lointain. Alors ça, on n'est pas encore au millimétrique, mais on va être dans le domaine millimétrique si on place cette galaxie à plus grand décalage vers le rouge, comme toujours. Donc on va décaler cette galaxie vers les grandes longueurs d'onde, vers le rouge, et donc on va pouvoir observer ces galaxies poussiéreuses dans le domaine millimétrique. Donc ça, c'est la galaxie telle qu'elle serait dans l'univers local, et ça, c'est si on la met, notamment un décalage vers le rouge de 5, d'accord ? Donc évidemment, l'émission a descendu, parce qu'elle est beaucoup plus loin, et elle est décalée vers le rouge. Donc ça, ce sont des galaxies poussiéreuses, et puis, dans ces galaxies, on a aussi une raie très très importante, qui est la raie de carbone ionisé, cette fois, donc l'atome de carbone ionisé une fois, qui émet dans l'univers local à 158 microns, et qui, en fait, elle aussi, va être décalée vers le rouge dans la fenêtre ALMA. D'accord ? Donc cette raie d'émission, qui est la plus brillante qu'on puisse faire sur un spectre de galaxie, qui est un traceur du refroidissement du milieu interstellaire, va être décalé ici, qui va être décalé à des décalages vers le rouge, qui sont dans l'époque de rayonisation que l'on peut observer depuis le sol. Bon, ma phrase était mal foutue, mais je pense que vous avez compris. Donc, avec ALMA, donc, on peut voir ces galaxies poussiéreuses. Alors, ce n'est pas les galaxies pures, primordiales, qui ne contiennent que de l'hélium et de l'hydrogène, mais on pense qu'il y a eu un enrichissement, puisque la formation d'étoiles s'emballait, qui est très rapide. Donc, on peut voir ces galaxies poussiéreuses, on peut déterminer notamment la masse de gaz. Parce que les étoiles se forment, notamment dans des nuages qui contiennent des molécules, et pour aller voir la masse de gaz, il faut aller voir dans ce domaine de longueur d'onde. Et c'est très important parce que la masse de gaz, c'est le carburant pour la formation des étoiles. D'accord ? Le gaz, c'est ce qui va alimenter la formation des étoiles. Donc on voit principalement le milieu interstellaire enrichi, notamment les raies du gaz moléculaire. Donc une raie qu'on utilise beaucoup, c'est la raie du monoxyde de carbone. Et puis les raies du gaz ionisé, comme le carbone ionisé. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un champ profond fait sur la même région que Hubble avec ALMA. Vous allez me dire, wow, c'est pas très joli ça. C'est vrai que par rapport aux galaxies qu'on voit là, déjà il y a des fausses couleurs ici, hein, nous là aussi, mais bon, il n'y en a que deux. Et on ne voit pas la forme des galaxies parce que là, cette observation a été faite avec une résolution pour les détails qui est plus faible que Hubble. Toujours est-il qu'avec ça, on peut compter, par exemple, le nombre de galaxies poussiéreuses, voir leurs propriétés. Donc, on a des galaxies poussiéreuses qui ne sont pas vues dans Hubble, parce qu'il y a tellement d'extinction du rayonnement que même Hubble ne les voit pas. À l'inverse, il y a des galaxies de Hubble qui sont très pauvres en métaux, qui émettent beaucoup dans l'UV, donc qui contiennent très peu de poussière, donc on ne les verra pas avec ALMA. Et puis après, il y a celles qui sont vues avec les deux, qu'on peut étudier dans les deux cas. Voilà, donc c'est assez complémentaire. Et donc là, je vous montre un exemple d'une galaxie qui avait été découverte en 1998, donc c'est assez loin, qui avait été fait par un relevé justement millimétrique, qui avait vu ses premières galaxies poussiéreuses dans l'univers lointain. Et puis cette galaxie, pendant très 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 longtemps, en fait, on n'a pas su mesurer son décalage vers le rouge. Et en fait, on a réussi à mesurer grâce à cet raie de carbone ionisé et de monoxyde de carbone, donc à l'IRAM, ici en France. Vous voyez, ça c'est l'émission de cette galaxie. Et vous voyez que l'image ici de Hubble, qui est quand même l'image la plus profonde qu'on ait jamais fait, hein, eh ben, il n'y a rien, quoi. Il n'y a même pas une crotte de mouche dessus. Donc cette galaxie n'existe pas dans Hubble, d'accord, parce qu'elle est complètement obscurcie par la poussière. Enfin, ce qu'on peut utiliser aussi, ce sont les lentilles gravitationnelles. Donc j'ai mis HELP, parce qu'en fait, ces galaxies lointaines, elles sont tellement petites et tellement faibles que tout ce qu'on peut trouver pour essayer d'amplifier leur signal, ben, on va prendre. Et une des façons d'aller les chercher, c'est d'aller les chercher devant, enfin derrière ou devant, ça dépend dans quel sens on se place, une lentille gravitationnelle. Donc une lentille gravitationnelle, ça va par exemple être un amas de galaxies. Donc c'est une très très grosse masse dans l'univers, masse de matière noire. Et puis les photons de cet objet qui va être derrière cette lentille vont être déviés au passage de la lentille gravitationnelle. Et donc par exemple cet objet qui va être derrière, imaginez-le très très loin aux confins de l'univers, eh bien, l'observateur qui est de ce côté-là, en fait, va voir une image ici et puis une deuxième image ici. D'accord ? Alors ça va multiplier les images des objets en arrière-plan. Mais ce qui nous intéresse ici, surtout, c'est que ça va aussi booster leur densité de flux. Et donc, ça va permettre de détecter des galaxies qui sont plus faibles. C'est-à-dire que leur signal va être multiplié, ça dépend des amas, par un facteur 10 à 100. D'accord ? Donc quand vous multipliez le signal d'une galaxie très lointaine par 100, d'un coup vous pouvez la détecter, alors que sinon vous ne pourriez jamais la détecter. D'accord ? Donc encore Hubble, encore lui, a fait très profondément dernièrement 6 amas de galaxies massives. Donc il y a des amas qui sont connus pour faire des très grosses lentilles gravitationnelles. Donc c'est ceux-là qui ont été utilisés. Donc a utilisé beaucoup d'heures d'observation. Et donc ça c'est un exemple. Donc vous voyez, c'est... compliqué, hein. Donc, il y a des galaxies dans tous les sens. Donc, il y a les galaxies qui sont devant l'amas, il y a des galaxies qui sont dans l'amas de galaxies, qui est la lentille gravitationnelle, puis il y a des galaxies qui sont derrière. Et les galaxies qui sont derrière, en plus, elles ont plusieurs images, des fois, et il faut recoller les morceaux entre « Ah, mais moi, je l'ai vu là, mais c'est elle, et c'est elle, et c'est elle », et des fois, ça fait des arcs et tout. Donc, vous voyez, tout est déformé dans cette image, hein, mais c'est une vraie observation. C'est remarquable, hein, honnêtement. Donc, on voit des arcs ici, par exemple. Et suivant où va être placée la galaxie ici en arrière-plan, ça va faire des choses que nous on observe qui vont être différentes. On va voir deux objets, trois objets, un arc, la croix d'Einstein, etc. Et donc derrière tous ces amas, en fait, ils ont pu extraire 250 galaxies toutes petites, minuscules, qui proviendraient de 600 à 900 millions d'années après le Big Bang, donc pile dans l'époque de rayonisation, enfin la fin de l'époque de rayonisation. Donc ça, c'est en étude aujourd'hui, pour aller mieux comprendre ces objets. D'accord ? Donc ça permet vraiment d'amplifier le signal de ces galaxies faibles et d'aller faire plus de la physique de ces galaxies. Mais ça ne nous donne pas trop la statistique, parce que c'est très très difficile de savoir de quel volume de l'univers elles proviennent. Et si on ne sait pas, par exemple, combien de galaxies on a par mètre cube dans l'univers, on ne sait pas trop quelle est leur contribution à la rayonisation. D'accord ? Donc bon, ça participe, c'est en mettant tout ensemble qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Au final, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les galaxies qu'on détecte, elles ne font pas la rayonisation. C'est-à-dire qu'il y en manque trop. Et on ne sait pas trop pourquoi. Alors, je reprends ici cette épaisseur optique en fonction du redshift. Donc ça, c'est ce qu'a du décalage vers le rouge, pardon. Ça, c'est ce qu'a mesuré Planck. Et si on prend les galaxies qu'on détecte aujourd'hui avec toutes ces techniques et qu'on extrapole un peu, hein, parce qu'on voit des tendances, donc on les extrapole en se disant ça doit aller comme ça, et bien on tombe sur la courbe verte ici et on voit qu'en fait, on n'est pas du tout à l'épaisseur optique qui était mesurée par Planck. Il nous en manque pas mal. Et en fait, pour faire la rayonisation telle que ça a été mesurée par Planck, il faut beaucoup de galaxies qui sont très faibles. beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord ? Et il y a un autre problème qui est vraiment très compliqué, c'est que donc on a ces galaxies avec ces étoiles massives qui forment des photons ionisants, mais pour aller rayoniser tout l'espace intergalactique qui est entre les galaxies, il faut que ces photons sortent des galaxies. D'accord ? S'ils restent confinés là où ils ont été formés, ben ils ne vont pas rayoniser. Et donc ça, pour qu'ils sortent, en fait, c'est les galaxies telles qu'on voit là, pour qu'elles fassent la rayonisation, il faut des fractions d'échappement de ces photons UV qui sont assez grands, et plus grands que ce qu'on observe dans l'univers local. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très bien compris. Est-ce qu'ils passent par des cheminées, des trajets privilégiés ? Ça dépend aussi, par exemple, de la porosité du milieu, s'il va être plus ou moins homogène ou pas, et tout ça va entraîner, en fait, la propagation de ces photons ionisants qui vont être différents. Donc on est loin d'avoir compris. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit avec Hubble, en fait, c'est vraiment une faible fraction des galaxies qui devraient faire la rayonisation, la partie immergée de l'iceberg. Et donc la rayonisation complète se ferait aujourd'hui par des galaxies qui sont très très faibles. D'accord ? Et même le JWST ne permettra pas de voir ces galaxies-là. Alors il y a d'autres contributions à la rayonisation, il y a ces fameux quasars. Donc aujourd'hui, alors les quasars, en fait, vous pensez bien, c'est des objets qui sont déjà très très évolués, avec des trous noirs très très massifs en leur centre. Donc les quasars tels qu'on les voit aujourd'hui, ils ne peuvent pas apparaître dans l'univers primordial, d'accord ? Ceux qu'on voit et qu'on pense être des quasars, ils arrivent forcément assez tard dans l'histoire, parce qu'il a fallu le temps que toutes les galaxies fusionnent et puis que ce trou noir croisse et augmente. Et donc ces quasars, aujourd'hui, on en détecte environ 60, à le plus lointain, un redshift de 7.6. D'accord ? Donc on est quasiment, je ne sais plus combien de millions d'années d'ailleurs. Bref, on est au milieu de la rayonisation. D'accord ? Pour l'instant, on ne trouve pas de quasar plus lointain. Donc le plus lointain jamais trouvé est la 7.6. Et en fait, les quasars ne sont pas assez abondants. Il n'y en a pas assez. Hein, leur densité est trop faible pour faire la rayonisation. Par contre, on est sûr qu'ils participent à la fin de la rayonisation et aussi à la rayonisation des atomes d'hélium. Parce que je vous ai parlé que des atomes d'hydrogène, mais pour ioniser aussi l'hélium, il faut des photons qui sont plus énergétiques et qui sont produits par les quasars. Donc voilà, donc les quasars, contribution, mais plutôt à la rayonisation lointaine. Et puis ces fameuses étoiles de population 3, et ben ça c'est encore plus compliqué. Donc, comme je le disais, elles sont très massives et composées d'hydrogène et d'hélium. Donc, elles sont simulées. Il y a beaucoup de gens qui font des simulations hydrodynamiques pour comprendre la formation de ces objets très massifs, premières étoiles pures et tout, mais pas vraiment observées. D'un autre côté, aller observer ce genre d'étoiles à des décalages vers le rouge de l'ordre de 20 à 30, on n'y est pas. Alors, il y aurait peut-être une tentative de détection dans un objet qui s'appelle CR7, pour Cristiano Ronaldo 7, pour Redshift 7, qui est une galaxie Lyman Alpha. Et dans le spectre de cette galaxie, en fait, il semblerait qu'il y ait un mélange des étoiles de population 2, donc celles qui contiennent déjà des métaux, et des populations 3. D'accord ? Mais bon, ça reste compliqué à détecter, et bon, ça va venir dans les années à venir. Et ces étoiles de population 3, en fait, sont probablement la source d'énergie qui a initié la rayonisation, d'accord, au tout début, dans les très très grands décalages vers le rouge. C'est pour ça que ce sera encore plus difficile de les trouver, surtout qu'en plus leur durée de vie est très faible. Voilà, donc avec tous ces instruments, donc depuis le sol au début jusqu'à Hubble, et on va de plus en plus loin, on arrive à voir les objets de plus en plus loin, donc de plus en plus tôt dans l'histoire de l'univers. Donc le futur de ça, c'est vraiment le JWST, donc le beau cadeau du 25 décembre. JWST a finalement été lancé par Ariane 5, donc un des lancements les plus prestigieux d'Ariane 5. Il a fallu, je crois, 36 ans entre le début et le lancement pour JWST, donc il y a eu plein de rebondissements. C'est le satellite de tous les excès, 10 milliards de dollars, 25 mètres carrés. Une fois déployé, un miroir de 6,5 mètres. C'est énorme, hein, d'accord ? Hubble faisait 2,4. Et son miroir est aussi déployable. Donc aujourd'hui, il lui reste 18 jours. Donc il est parti. Lancement absolument parfait. Ariane 5 a mis le satellite sur orbite de façon ultra nominale. Ils ont même gagné de ce fait-là de la durée de vie du satellite. Des années à la durée de vie du satellite. Donc dans 18 jours, il sera au point de Lagrange L2, qui est son stationnement final. là où il pourra commencer à mettre en route ses instruments et puis commencer à observer, donc à faire comme le champ profond de Hubble, mais côté infrarouge proche et tout. Donc là, ça permet, enfin, ça ouvre une vraie révolution. Enfin, on attend beaucoup du JWST. Voilà. Donc vous voyez sa taille là par rapport au monsieur qui est là, hein. C'est vraiment gigantesque. Alors, j'en ai fini avec les sources. Et donc maintenant, on va regarder comment on peut observer l'époque de rayonisation avec la distribution à grande échelle. Donc ça, vous êtes peut-être moins familier. Donc j'ai fait ici un petit schéma qui vous montre, par exemple, comment pourrait être l'univers à décalage valeur rouge de 8, avec toutes ces galaxies qui font des bulles de gaz ionisées, peut-être des quasars, ça c'est un quasar, et entre ces bulles de gaz ionisées, on a toujours ce gaz neutre, d'accord ? C'est ce gaz atomique, H1, qui en fait est très froid, et donc on va l'observer avec une autre raie dont je n'ai pas encore parlé, qui est une raie à 21 cm. Donc là, on est parti de la raie Lyman alpha dans l'UV, et là, 21 cm, pouf, on parle dans la radio complète, 21 cm, hein, d'accord ? Et cette raie à 21 cm trace le milieu atomique froid, et donc c'est elle qu'on va vouloir regarder pour aller chercher ce qui se passe là dans ces régions bleues. Et donc on va, au lieu de voir toutes les galaxies là comme le fait Hubble, ALMA, où ils observent une petite région du ciel, ils voient les galaxies, donc ça permet d'avoir accès à la quantité de gaz, d'étoiles, la formation stellaire dans toutes les galaxies. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la distribution à grande échelle. D'accord ? On ne voit plus les galaxies, on regarde la distribution à grande échelle. Donc, on peut regarder la distribution à grande échelle du gaz neutre. On peut aussi cartographier la distribution à grande échelle des galaxies. D'accord ? Donc là, on fait des champs qui sont très grands. On ne voit plus les galaxies de façon individuelle, mais on va voir leur fluctuation de leur signal à grande échelle parce que les galaxies se forment dans les halos et les filaments de matière noire, donc vont suivre cette distribution de la matière noire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc on peut comme ça regarder, alors, je vais mettre la slide d'après, je pense. Donc voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a comme ça, au lieu de regarder un petit champ où on voit toutes ces galaxies, on observe un très très grand champ et on voit la distribution des galaxies le long des filaments de matière noire. Le problème de ça, c'est que là, on regarde le continu des galaxies. Donc en bande large, comme tout à l'heure. Et donc, le signal qu'on mesure dans ce genre de carte, il est le signal de la somme de toutes les galaxies sur toute l'histoire de l'univers. C'est-à-dire qu'on a compressé toute l'histoire. D'accord ? On a perdu l'information en décalage vers le rouge. Donc on va voir, on arrive à obtenir des résultats, c'est super intéressant, mais on a perdu cette information en décalage vers le rouge. Et donc, pour réobtenir cette information en décalage vers le rouge, il faut à nouveau utiliser une raie. Donc, au lieu de regarder les fluctuations de brillance d'un fond diffus à une longueur d'onde donnée, on va regarder les fluctuations de brillance de l'émission des raies, comme la raie du carbone ionisé ou la raie du monoxyde de carbone. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure toutes ces fluctuations de brillance en fonction de l'échelle spatiale. Donc, en fonction de la taille de ces structures, on va mesurer le signal des fluctuations. Et on voit qu'avec ce genre de technique, en fait, on est sensible à tout, c'est-à-dire la radiation aussi qui vient des galaxies qui sont tellement faibles, par exemple, qu'elles ne pourraient pas être vues avec le JWST. D'accord ? Donc avec le JWST, on va voir les galaxies de façon individuelle. Et puis toutes les galaxies faibles qu'on ne peut pas voir parce qu'elles sont dans le bruit, elles vont créer ce signal de fluctuation à grande échelle. D'accord ? Donc c'est une information complémentaire, mais qui est plus difficile quand même à interpréter. Donc ça a été tenté à plusieurs longueurs d'onde, et je vous montre ici pour la rayonisation donc des cartes de fluctuation dans le proche infrarouge, 1.1 et 1.6 microns. Donc c'est pas très glamour, hein. Donc en fait là ce qu'on voit c'est le signal qui reste, une fois qu'on a enlevé les galaxies proches, qu'on ne veut pas voir, les étoiles, etc. Donc c'est plein de trous, le noir c'est des trous, et puis le signal dans la carte, en fait, on ne voit pas bien, là, c'est tout vert, mais donc c'est un signal de fluctuation. Évidemment, comme c'est très bruité par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, comme ça, là, c'est moins joli. Puis il y a des trous partout. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer l'amplitude des fluctuations en fonction de l'échelle spatiale. Donc l'échelle spatiale est donnée ici par cet axe-là, donc, ou celui-là. Donc ici, on est à grande échelle, on regarde les fluctuations à grande échelle. Ici, de ce côté-là, on a petite échelle, quasiment l'échelle des galaxies. Et le signal qui est observé, donc c'est là on regarde l'amplitude du signal en fonction de l'échelle, donc c'est, ce sont les points ici. Et le signal qu'on prédit pour la rayonisation, parce qu'on cherche ce signal, mais on a quand même des modèles qui nous disent où est-ce qu'il devrait être, c'est ce signal qui est là en rose et bleu. Vous voyez, ça ne colle pas du tout. C'est-à-dire le signal des fluctuations qu'on mesure ici, il est 100 fois plus élevé que le signal qu'on attend des galaxies à la rayonisation. Alors vous pouvez me dire, oui, mais vous m'avez dit juste avant qu'il y avait plein de galaxies faibles qu'on ne voyait pas. Eh bien non, même en tenant compte de ces galaxies faibles, ça ne rend pas du tout compte de ce signal. D'accord ? Donc l'excès qui est là, il est difficile à interpréter. Donc on pourra parler après des interprétations si on a le temps. Mais toujours est-il que ça montre vraiment qu'on a besoin du décalage vers le rouge. Parce que dans ces cartes-là, comme je vous le disais, on somme tout ce qu'on a sur la ligne de visée. Alors on a beau nettoyer un peu, c'est super difficile de nettoyer le signal, d'accord, déjà du système solaire, l'émission zodiacale, de la Voie lactée, des galaxies proches et tout. C'est très difficile d'éplucher le signal pour ne garder que le signal de rayonisation. Donc on a besoin du décalage vers le rouge, donc on a besoin de faire, cette technique s'appelle l'intensity mapping, en trois dimensions. Donc en trois dimensions, ici donc, c'est ce qu'on aurait à deux dimensions si on collapse tout le signal comme c'est fait quand on regarde le continu. Maintenant si on regarde une raie, par exemple ici c'est la raie de CO, du monoxyde de carbone, donc on sait à quelle longueur d'onde sont émises les raies, donc quand on regarde à une autre longueur d'onde, on sait exactement à quel décalage vers le rouge on regarde. Donc on a accès de nouveau à ce temps si précieux. Et donc ça, c'est quand on remet tout en fonction sur les différentes slices, comment dire en anglais, sur les différentes tranches en temps. Alors, quelle raie on va utiliser ? C'est une technique qui est assez difficile à mettre en œuvre, donc on va utiliser des raies les plus brillantes, donc l'Iman alpha, la raie à 21 cm du gaz atomique neutre, la raie de CO et la raie de carbone ionisé. Alors, il y a tout un tas de manips aujourd'hui qui commencent à se lancer pour travailler sur ce champ. Il y a des manips donc, sur le H1, sur le C+, sur le carbone ionisé, le CO. Et en fait, donc, pour la rayonisation, hein, le C+, est très important. Vous voyez les décalages à le rouge ici. Le H1 pour la rayonisation et les H sombres. Et le CO, ils vont essayer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore mis au point. La première étape de toutes ces manips, c'est de démontrer la faisabilité et le potentiel scientifique de ces relevés d'intensity mapping, et de fournir un banc d'essai pour les technologies et élaborer les stratégies observationnelles. Parce qu'on est vraiment dans le début, c'est peut-être dans 10 ans, j'aimerais vous en reparler pour vous expliquer ce qu'on a fait avec cette technique. Mais là, on est au tout début, donc on essuie un peu les plâtres quand même. Alors côté H1, actuellement, il y a deux expériences qui mesurent donc, ce signal de fluctuation, donc, qui s'appellent LOFAR et ERA. Et aujourd'hui, on a des limites supérieures, c'est-à-dire que le signal, il est là, et puis au fur et à mesure des années, on a de moins en moins de bruit, on comprend mieux les données, on a plus de données, donc on a moins de bruit, on comprend mieux comment enlever la galaxie, etc. Donc au fur et à mesure des années, le signal il est tout là-haut, puis il descend. Donc jusqu'au moment où peut-être qu'un jour on détectera, d'accord ? Mais pour l'instant, la limite descend. Donc ça, déjà, ça va dans le bon sens, ça ne monte pas. Et on attend donc le Square Kilometer Array, qui est un grand radiotélescope dans lequel la France participe, qui permettra vraiment de faire de l'intensity mapping du H1, avec 200 télescopes paraboliques situés en Afrique du Sud, ici, et beaucoup d'antennes, ici, des petits râteaux, là, situés dans l'Australie, pour les plus hautes fréquences et les plus basses fréquences, pour voir cette raie de H1 qui est au décalage vers le rouge de la rayonisation et des H sombres. Donc ça, la construction d'EMA. Le problème de tout ça, c'est très très difficile de prédire le signal qu'on attend. D'accord ? Donc ça, c'est une simulation. Donc cette fois, les H sombres sont là et la rayonisation est là, donc c'est renversé en temps par rapport à tout ce que je vous montre depuis le début. Et donc c'est pareil, c'est un film qui montre, par exemple ici, l'amplitude de ces fluctuations à une échelle donnée en fonction des paramètres du modèle. Donc là, on voit qu'il y a 6 paramètres dans le modèle. Et puis, en fonction de la variation de ces paramètres, on va voir comment ce spectre évolue. Donc, il est là en fonction du décalage vers le rouge. Donc, en fait, vous voyez qu'à certains décalages vers le rouge, suivant la variation des paramètres, en fait, on a une variation de plus d'un facteur 10 du signal qu'on attend. Donc, c'est très, très incertain. Il faut savoir qu'un facteur 10, c'est un facteur 100 en temps d'observation. D'accord ? Donc si vous aviez prévu de passer 1000 heures sur un champ pour détecter ça, il faudra, s'il faut 100 fois plus d'heures pour le détecter, bah, vous ne le verrez jamais, parce que vous n'aurez jamais 100 fois plus d'heures. D'accord ? Donc ça, c'est une des difficultés, c'est que la prédiction du signal aujourd'hui, eh ben, suivant les modèles qu'on utilise, il y a des facteurs 10. D'accord ? Et c'est vrai pour le H1, mais c'est vrai aussi pour le carbone ionisé, etc. Donc ça, c'est une autre simulation de ce qu'on attend comme de la température de brillance de l'arrêt H1 pendant la rayonisation. Donc cette fois, on est revenu dans le même sens. Hein, la rayonisation finit ici à Z égale 6, commence à Z égale 15. Et ça, c'est ce qui est mis dans la simulation. Et ça, c'est ce qu'on observera. Donc, vous voyez, on n'ira pas voir les petites bulles ici autour. Là, on est complètement dans le bruit. Par contre, on va réussir à voir l'histoire générale. D'accord ? Donc, c'est vraiment très, très dur parce que les signaux sont très faibles. Mais ça, ce genre de carte, il n'y a aucun instrument dans l'optique qui va permettre de faire ça. JWST, là-dessus, il observe une crotte de mouche en taille. D'accord ? Alors, côté carbone ionisé, donc on a en France, donc, on travaille sur un instrument qui s'appelle Concerto, qu'on a réussi à installer en avril 2021, malgré le Covid, au Chili. Donc, il est installé là, sur Apex, qui est un télescope qui est juste à côté d'ALMA, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ALMA n'est pas sur cette photo, mais ALMA est ici, en fait. Donc, c'est sur le même plateau, et ça, c'était une antenne prototype d'ALMA, sur laquelle on peut mettre des instruments pour faire des observations. Donc, ça, c'était Concerto en laboratoire en janvier de l'année dernière, avant d'être mis en caisse pour être envoyé au Chili, et ça, c'est le montage dans la cabine du cryostat et de l'électronique, etc. Et je ne résiste pas à vous montrer les premières images de Concerto qu'on a obtenues depuis la France, parce que crise oblige, on fait toutes les observations depuis notre salon, ce qui est quand même remarquable, hein, c'est un instrument qui fonctionne à 100 millikelvin et tout. Et ça, c'est des observations, alors c'est des observations faciles, hein, donc dans le millimétrique, de régions brillantes. Donc ça, c'est une région de formation d'étoiles dans le disque de la Voie lactée. Et puis ça, c'est la nébuleuse du Crabe, qui est un reste de supernova qui a explosé en 1054. Et là, c'est superposé à des données optiques, et ce qu'on ne voit pas bien, mais derrière, en fait, cette émission-là, qui est l'émission de la poussière, en fait, on ne voit pas d'étoiles, parce qu'on a de l'extinction, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se produit aussi dans notre galaxie. Voilà, donc ça, c'est le tout début. Et ce qu'on est en train de faire, là, depuis 6 mois, et qui va durer encore jusqu'à fin 2022, c'est qu'on est en train d'observer un champ, cette fois qui est beaucoup plus grand que le Hubble Deep Field, donc 430 fois plus grand, d'accord ? Donc c'est ce que je vous disais, avec l'intensity mapping, on voit des champs qui sont très grands. Et ça, ce serait le signal qu'on verrait à une fréquence donnée sans bruit. Évidemment, on a du bruit, donc c'est beaucoup moins joli que ça. Donc ça, ça vous montre la distribution des galaxies dans les raies moléculaires de monoxyde de carbone et de carbone ionisé, d'accord ? Donc on voit, ça suit les filaments de matière noire, il y a des vides, et à partir de ça, on peut, pareil, mettre des contraintes sur l'époque de rayonisation. Mais pareil, les prédictions sont très incertaines, un facteur 10 aussi. Donc l'idée, hein, de toutes ces manips, c'est vraiment d'essayer d'attraper un signal, et puis le jour où une manip va en attraper un, eh ben, on va pouvoir designer de nouvelles manips pour aller de plus en plus bas, comme c'était le cas avec les premiers télescopes en optique, où ça a été de mieux en mieux. Bon, on a juste 100 ans de retard mais sur cette technique-là. Alors pour finir, donc l'époque de rayonisation, donc c'était vraiment une frontière observationnelle. Il faut comprendre que ça a l'air facile, mais c'est extrêmement difficile d'aller observer ces objets très lointains. Il faut beaucoup de temps de télescope, il faut beaucoup de réduction de données derrière, d'apprentissage, etc. Donc c'est vraiment une science qui est loin, c'est dans l'univers jeune, donc c'est des objets qui sont faibles, des signaux qui sont faibles, donc c'est très compliqué. Mais il y a eu des progrès considérables ces 10 dernières années. Alors, je vous ai montré essentiellement des progrès côté observation, mais il y a énormément de travail qui a été fait côté simulation numérique, dont je n'ai pas parlé, faute de temps. Aujourd'hui, on pense que cette rayonisation est à portée de télescope, notamment avec la belle décennie qui va venir, donc JWST qui était lancée, SKA qui est en train d'être construit, et puis les 8-10 mètres au sol qui font quand même des belles observations de suivi sur des spectres, mais qui vont aussi migrer vers l'extrêmement large télescope, donc un télescope de 39 mètres, qui devrait voir sa première lumière dans la prochaine décennie. Donc pareil, hein, plus c'est grand, plus on peut collecter, donc plus on voit loin dans l'univers. Et puis toutes ces petites manips, je dirais, alors il y en a certaines qui ne sont pas très petites, hein, mais qui vont permettre aussi d'avancer côté intensity mapping. Voilà, j'ai fini.
Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup, Guylaine. On a tous appris beaucoup de choses. Donc, je vais vous donner la parole pour les questions. Merci d'attendre que j'arrive près de vous avec le micro, parce que pour l'enregistrement, on n'entendrait pas vos questions autrement. Donc, qui a des questions ? Après, j'ai aussi noté quelques questions qui sont passées sur le chat et dont je ferai part, mais honneur au présent d'abord. N'ayez pas peur, il n'y a pas de questions idiotes. En plus, c'est un sujet qui n'a pas été traité ici, donc vous avez le droit de ne rien savoir, n'avoir rien su en arrivant, disons. Pas en partant, ce serait triste. Bon, alors je vais partir d'une question du chat pour vous laisser réfléchir à vos questions. Alors, il y avait une question sur le... Tu as parlé de l'hydrogène et de l'hélium, et il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y avait aussi du lithium, du béryllium, et pourquoi est-ce qu'il y en avait ou pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas ?
La nucléosynthèse primordiale dans l'univers, là, je ne connais pas bien, mais quand on regarde la composition de l'univers, on a 75% d'hydrogène, 24% d'hélium, 1% d'oxygène, et puis le reste, c'est tout petit, donc bon... C'est pas des atomes qui jouent un grand rôle dans la formation des structures qui est ce qu'on cherche à voir là. Quoi.
On est d'accord. Alors il y a une autre question que je me suis posée d'ailleurs aussi quand tu as parlé du trou noir massif dans la galaxie à Z égale 11. Donc ça, j'aurais pas cru. Comment on le sait ? Comment est-ce qu'il a pu se former
Je ne sais pas. En fait, c'est à partir du spectre de cette galaxie où ils ont quelques raies un peu excitées et ils se disent que c'est peut-être un trou noir. Alors, c'est une évidence. Hein. Enfin, c'est une tentative, comme ils disent, peut-être. Donc, on ne comprend déjà pas comment on peut former cette galaxie qui est si massive, qui forme autant d'étoiles si tôt dans l'univers. Donc pourquoi elle aurait un trou noir, on comprend encore moins, mais bon, ça fait partie de...
Bon, enfin, donc on comprend
des
pas.
Énigmes.
D'accord,
des énigmes.
D'accord, non, mais parce que moi, ça m'a vraiment étonnée. Je me suis dit, oh là là, mais je ne savais pas du tout. Oui, donc en fait, on ne comprend pas encore. Pas encore.
Bah, disons qu'on n'arrive pas à le former dans les modèles.
Quoi. Voilà. Donc on ne comprend pas encore comment il a pu se former. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant ? Non ? Oh là là, ils sont timides ce soir. Hein. D'habitude, il y en a plein. Ils n'osent pas. Ce n'est pas parce qu'on a des masques qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Non ? Toujours pas ? Bon, alors je continue. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais ce n'est pas moi qui réponds. Donc. Peut-on évaluer la différence de temps d'arrivée des photons des différentes images gravitationnelles d'une même galaxie ? Et si oui, de quel ordre est la différence ?
Alors, ça, je ne connais pas du tout. Je ne travaille absolument pas sur les lentilles gravitationnelles, mais oui, ils font ça avec des quasars, notamment, je crois, pour tester les modèles de gravité, de relativité. Ils essaient de mesurer les décalages d'émission, parce qu'un quasar, c'est variable. Donc, ils essayent de mesurer les décalages d'émission qui arrivent dans les différentes images. Et ça permet de tester de la physique fondamentale.
D'accord.
Parce que ça existe comme science.
Les lentilles gravitationnelles peuvent aussi créer des images multiples, et en particulier pour les quasars.
Alors, ça crée des images multiples, mais si on veut voir comment elles varient, il faut qu'on ait un signal variable derrière. Si on a un signal d'une galaxie qui ne varie pas dans le temps, on ne va pas voir comment ça varie. Oui. Donc, c'est fait avec des objets variables derrière. Et là, on peut mesurer les délais d'arrivée du signal en fonction des différentes images.
D'accord. Ouais. Bon, une dernière question ? Non ? Toujours pas ? Bon, alors, il y a une question. Bon, je te la pose quand même. Et puis, pourquoi y a-t-il de la matière noire ?
Off ! Joker ! Je ne vais pas répondre à cette question. Voilà, on l'observe. Enfin, on ne sait même pas si c'est ce que c'est la matière noire. Donc, c'est elle qui structure tout l'univers. C'est elle qui fait les lentilles gravitationnelles. C'est dedans que vont se former les galaxies, dans les puits de potentiel de matière noire. On l'observe partout. Ça explique le fond diffus cosmologique, la matière noire froide. Mais après, voilà. Elle est là.
Voilà, mais on n'est pas là pour expliquer
elle
pourquoi.
Elle est là. Après, en fait, là, il faudrait une conférence sur la matière noire et je suis bien parler de ça.
Alors, il y a une question là. L'hydrogène atomique se situe-t-il essentiellement dans les filaments ?
Alors, lequel ?
Lequel? L'hydrogène atomique, bah, donc H1.
Enfin, non, bah, du H1, il y en a partout. Oui. Donc il y en a dans toutes les galaxies. En fait, aujourd'hui, dans l'univers local, puisqu'il est rayonisé dans le milieu intergalactique, il n'existe plus que dans les galaxies. D'accord? Donc c'est un peu l'image qui est là, d'ailleurs. Si on faisait ça en H1, on verrait du H1 que dans les galaxies. Par contre, ce qu'on voit, désolé pour la caméra, mais c'est que, par exemple, si on a une galaxie optique comme ça, avec ses bras, je dessine très mal, et puis des régions de formation d'étoiles, et bien souvent, ce qu'on va voir avec le gaz H1, c'est un truc énorme, comme ça, qui va très loin, avec des courants et tout. En fait, le gaz H1 froid, qui est le gaz qui reste et qui continue de tomber sur la galaxie pour former des étoiles, il est très, très, très étendu par rapport à ce qu'on voit dans le domaine optique. Donc, il y a du gaz H1 dans les galaxies, clairement. Et après, ces galaxies sont sur les filaments de matière noire. Donc, on peut trouver du H1 dans les filaments de matière noire, mais ça suit les galaxies, en fait. Dans l'univers rayonisé, il n'y a pas de H1 dans le milieu autre que dans les galaxies. Après, lorsque l'univers n'était pas rayonisé, là, évidemment, il y avait du H1 partout, ça baignait l'univers, quoi, entre les bulles de gaz ionisé.
Et enfin, puisqu'il y a encore une question intéressante, là, comment est-ce que l'expansion agit sur la rayonisation, pardon.
C'est-à-dire?
Comment l'expansion agit sur la rayonisation? Est-ce que, je sais pas, le fait que l'univers est en expansion, est-ce que ça va modifier?
Ça va par exemple diluer la densité, voilà. Ou des choses comme ça. Donc oui, c'est pris en compte dans les modèles. Mmh. L'expansion de l'univers est pris en compte dans toutes les simulations pour voir comment les bulles se propagent, les bulles de gaz ionisé se propagent, oui, bien sûr.
Bon, eh bien écoutez, si y a une question, alors je vous apporte le micro.
Au rayon des questions bêtes, la raie 21 cm de l'hydrogène, elle a été mise par quoi? Quelle transition?
Alors, c'est une raie de structure fine de niveau fondamental. Je ne sais pas quelle est votre compréhension de physique atomique, mais... Donc, vous savez, là, j'avais tracé ces niveaux d'énergie, là, N égale 1, N égale 2. Donc, N égale 1, c'est le niveau fondamental. Et en fait, ce niveau... il va avoir deux niveaux d'énergie très très proches, qui est suivant que le spin de l'électron, donc les spins c'est un peu comme un moment cinétique, mais pas tout à fait, enfin, ça n'a pas vraiment d'équivalent en mécanique classique, c'est de la mécanique quantique. Donc on peut imaginer qu'on a le proton avec son spin comme ça, et puis l'électron avec sa direction comme ça, et puis de temps en temps lui il va flipper, il va changer de direction, et quand il va changer de direction, ça va créer ces niveaux de ce qu'on appelle de structure fine, qui va créer cette raie. Et donc, comme c'est ces deux niveaux qui sont très proches, qui ont une différence d'énergie qui est très, très, très petite, ça émet à très, très grande longueur d'onde.
Alors, j'ai encore une question, Lucie, et puis après, on va arrêter. L'univers pourrait-il revenir à son état originel selon le modèle du Big Bounce?
Big Bounce, yeah! Je ne sais pas, pour l'instant, c'est le Big Bang et l'accélération d'expansion, donc... Aujourd'hui, on est dans un univers qui accélère encore plus son expansion, donc qui éloigne de plus en plus les galaxies, qui les galaxies s'appauvrissent en gaz, et là, c'est plutôt tristoun comme fin, on ne voit pas comment... Non, voilà. Ouais, après, on ne comprend pas l'énergie noire, donc pourquoi pas, mais ça, c'est de la spéculation, je dirais. Enfin,
oui.
Avec ce qu'on voit, on n'est pas côté Big Bounce, là, on est côté expansion infinie.
Voilà. Eh bien, oui.
Donc, si j'ai bien compris, vous pensez que le Big Crunch est une spéculation?
Là, vous m'emmenez sur des terrains que je ne connais pas bien. Moi, je ne fais pas de la théorie, des modèles cosmologiques. Donc, je ne sais pas. Moi, je pars du principe, alors ça n'engage que moi, que toute théorie doit être prédictive pour pouvoir être observée. D'accord? Si on fait des théories qui ne peuvent pas être observées, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc voilà, donc je suis dans le concret, quoi, dans les observations.
Même pas fausse, comme m'avaient dit certains. Quoi.
Pardon?
Une théorie même pas fausse, comme m'avaient dit certains.
Une théorie même pas fausse, comme auraient dit certains.
J'ai pas la ref. J'ai pas la référence.
Mais quand il n'y a pas il n'y a aucune évidence pour le...
Même pas fausse, c'est une théorie sur laquelle on ne peut pas s'étayer.
Oui, il n'y a pas de... Voilà. Pour l'instant, il y a...
Aujourd'hui, ça, on est dans ce modèle de Big Bang avec l'énergie noire, la matière noire, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais tous les effets que créent ces composantes, on les voit. On ne comprend pas leur nature. On arrive à reproduire mais des tonnes d'observations dans l'univers avec ce modèle aujourd'hui et on n'arrive pas à le casser. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle ultime, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a raison. D'un autre côté, si un jour quelqu'un pond un nouveau modèle, il va lui falloir 100 ans pour prédire tout ce qu'on a réussi à faire avec l'ancien modèle. Là, franchement, parce que le problème aussi des nouveaux modèles, c'est qu'ils font un truc, mais ils ne font pas l'autre truc qu'on regarde. Donc, le modèle aujourd'hui qu'on a aujourd'hui, lambda CDM, là, avec cette conscience cosmologique, machin et tout, il reproduit tellement bien tout ce qu'on voit que pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est la réponse.
Non, parce qu'on a quand même encore le problème de savoir ce que c'est que la matière noire et ce que c'est que l'énergie noire.
Oui, puis on a ce problème sur la constante de Hubble.
Voilà, oui, donc...
On a des problèmes,
c'est
clair.
On n'a pas tout compris encore.
On n'a pas tout compris, mais voilà. Mais on n'a pas d'autres modèles qui marchent aussi bien.
Oui. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
C'est tout ce qu'on peut dire.
Eh bien, nous, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup, Guylaine, une nouvelle fois. Et bonne soirée à tous.